marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Alors moi, qu'est-ce que je fais toute la journée, hein? Bah, je suis là, comme une idiote, à vous attendre. J'ai réfléchi, je vais m'en mettre à travailler, moi.
Qui ça, toi? Oh,
oh. Oui, moi, pourquoi pas?
T'es complètement folle. De toute façon, tu sais rien faire, ma pauvre chérie. Oui.
Aux archives citoyennes, la femme et le travail.
Est-ce que dans un ménage où les deux travaillent énormément, est-ce que ça ne met pas en danger l'équilibre du ménage?
Est-ce que ça a été dur de convaincre votre mari des nécessités de travailler en heures supplémentaires? Vous arrive-t-il d'avoir des réunions le soir?
Vous êtes avocate. Vous avez un cabinet qui marche bien. Qu'est-ce qui se passe lorsque, par exemple, vous êtes obligé d'aller plaider ailleurs qu'à Grenoble?
Mais lui, ça ne l'ennuie pas d'être l'homme au foyer?
On voit, d'après cette archive des années 60, que les hommes ont toujours été décontenancés quand les femmes venaient s'installer dans le récit et le discours sur le travail qu'ils ont l'habitude de tenir. Et ils avaient, en effet, coutume de n'entendre du côté des femmes qu'une parole à bas bruit, quand ce n'était pas le silence. Les archives témoignaient de cette dissymétrie, un exemple parmi des milliers. Les lettres de Tocqueville à sa femme, elles ont été beaucoup mieux conservées que celles de son épouse. Et pourtant, la personnalité de celle-ci, Marie Motley, une Anglaise déterminée, était singulière. Mais parlons du milieu ouvrier dans les années 1960-1970, période de transition décisive qui va nous occuper. 40% des femmes actives étaient ouvrières. 20% travaillaient dans le tertiaire. 5% seulement avaient acquis l'accès aux postes de cadre ou aux professions intellectuelles dites supérieures. L'agriculture aspirait encore un grand nombre de femmes. Or, quelles traces reste-t-il de l'immense peine de ces femmes dans les fermes? Un rouet dans la salle à manger, des descendants, du linge marqué dans leur placard, un cahier de recettes manuscrites dans un tiroir. Il faut que des autres expériences de travail qu'ont connues les femmes restent bien d'autres matériaux. C'était le projet des archives nationales, départementales, municipales qui, l'an 2018, ont organisé une grande collecte aux archives citoyennes. C'était une opération dont la marraine était la grande historienne Michèle Perrault.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Bonjour Michèle Perrault.
Bonjour Jean Lebrun.
Quand vous évoquez les traces disparues des femmes, vous vous interrogez sur ce moment où, devenues âgées, dans leur chambre, ouvrant leur boîte, ils se disent « on va peut-être mieux détruire tout ça ».
Oui, les femmes détruisent leurs traces. Elles ont l'impression que c'est impudique de paraître en public, et notamment ce qu'elles détruisent, mais peut-être les hommes aussi, j'en sais pas, elles détruisent leurs lettres d'amour. Les lettres d'amour, c'est quelque chose de tellement privé que ça ne peut pas apparaître en public. Quant au reste, mais qu'est-ce qui reste? Et il y a toujours ce sentiment de la part des femmes que ce qu'elles ont fait ne vaut pas la peine d'être dit et écrit. Et c'est d'ailleurs un obstacle à l'histoire des femmes, que cette renonciation, ce renoncement à la parole publique et à l'écrit public.
L'opération des archives se fait avec les archives publiques et pas prioritairement avec les lieux spécialisés qui se sont créés au nom de l'histoire. Je sais pas, la bibliothèque Marguerite Durand, enfin il faut dire que la ville de Paris ne la traite peut-être pas exactement comme elle devrait l'être, ou les archives du féminisme lancées par votre élève Christine Barr. Oui, là, oui. C'est le choix qui est indiqué, déposez vos papiers, prêtez vos papiers, donnez vos papiers aux archives publiques, généralistes.
Oui, c'est une initiative qu'il faut saluer. Il faut saluer Françoise Balaberger, la directrice actuelle des Archives nationales, et toute son équipe. Je pense à des gens comme Denise Ogilvy, beaucoup d'autres. Et en dehors de cet appel qui peut paraître un peu pathétique finalement, donnez vos archives, sauvons ce qui est perdu, ce qui risque d'être perdu, il faut dire que en dehors de ça, elles font une action continue à la fois en direction des femmes pour qu'elles versent leurs archives d'un côté, et puis aussi de recherche dans leurs propres archives de ce qui concerne les femmes. J'ai eu l'occasion, avec d'autres, de participer il y a très peu de temps à une journée d'études sur l'interruption volontaire de grossesse dans les archives publiques. Ça voulait dire que des archivistes avaient regardé dans toutes les grandes séries publiques ce qui concernait ça. Et ben c'était formidable. Et on s'aperçoit que si on cherche, on trouve des choses, beaucoup.
Ben, si on cherche, on trouve dans nos archives audiovisuelles une homonyme, anonyme un peu, Madame Perrault. Elle était de son état cordonnière à Saint-Junien. Je sais que votre père travaillait dans le cuir.
Absolument.
Alors, c'est l'époque où Dumayet et Desgroupe disaient que le service public devait s'adresser par priorité à la mercière de Périgueux ou à la cordonnière de Saint-Junien. Maintenant, on s'adresse au kid avec son téléphone portable. Il faut que je donne le nom du journaliste qui interroge Madame Perrault, parce que lui, c'est un monsieur important. C'est le futur Michel Denisot.
Madame Perrault, vous avez appris votre profession de cordonnier d'une façon assez particulière.
Oui, monsieur. Ça se trouvait l'année de la guerre, j'ai dû quitter l'école. Et mon père se trouvait seul. Mon frère était parti à la guerre. J'ai appris comme ça avec mon père.
Vous exercez maintenant cette profession depuis 30 ans. Est-ce que c'est parce que vous l'aimez ou est-ce que c'est parce qu'au début, vous n'avez pas eu le choix?
Je n'ai pas eu le choix. Et puis d'autre part, c'est une profession qui me plaît.
Est-ce qu'à votre avis, c'est un métier féminin?
Eh bien, pas terriblement un métier féminin, parce qu'il y a des choses qui sont un peu dures. Il faut tout faire dans ce métier-là. Des fois, on est obligé de faire la mécanique.
Madame Perrault, est-ce que dans votre profession, vous avez une spécialité?
Et vous aviez, Madame Perrault, une spécialité dans cette fin des années 1960?
Dans cette fin des années 1960, j'étais encore spécialiste, oui, du monde ouvrier, du monde du travail. Je travaillais sur les grèves, et j'ai fait ma thèse sur les grèves sous la Troisième République, voilà.
Mais il y a un chapitre sur les femmes ou les femmes dans tous les chapitres?
Il y a un chapitre sur les femmes, absolument, où je constate d'ailleurs avec un peu presque de mélancolie, que, ma foi, elles n'ont pas une très grande place dans les grèves. Et à cette époque-là, je n'explique pas très bien ça. À la limite, j'attribue ça un peu à un retrait de leur part et à une certaine résignation. Or, pas du tout. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Les femmes étaient au travail provisoirement, dans leur jeunesse et jusqu'à la naissance du premier enfant, puis après elles disparaissaient de l'usine. Et le monde, la condition de l'ouvrière, au fond, était très mal vue. Elle était très mal vue des bourgeois, ça va de soi, Michelet, ouvrière, mot impie, mais elle n'était pas tellement bien vue des ouvriers eux-mêmes, qui au fond voulaient une ménagère à la maison.
1968, grève, vous êtes assistante à l'Institut d'Histoire Économique de la Sorbonne. Vous publiez d'ailleurs en préface des textes de l'Association pour l'autobiographie où sont réunis, mémoire de mai, des témoignages de femmes qui ont...
Les filles de mai.
Qui ont vécu...
Publié par Monique Bauer.
Ce moment. Alors, chacun connaît... Le seul film révolutionnaire de mai 68, comme disait Jacques Rivette, c'est la séquence de 10 minutes tournée par des étudiants de l'IDEC avec une ouvrière anonyme devant la porte de Vondère à Saint-Ouen. Elle veut pas rentrer, c'est trop sale, c'est dégueulasse. Cette tôle, Hervé Leroux, est allée à la recherche des camarades de cette anonyme qui avait la chance, elles aussi, de travailler pour Monsieur Courtecuisse. C'est un monsieur qui était patron de droit divin de Vondère.
J'ai passé le certificat d'études et puis ma mère m'a retiré de l'école pour me mettre chez Vondère.
Comme apprenti ou...
Non, non, il n'y avait pas d'apprentissage. Pour les filles, on les mettait comme ça à la chaîne. On arrivait, ouais. On ne savait rien.
À 14 ans.
Voilà, on vous mettait sur une machine et puis il fallait suivre la chaîne qui défilait. Ceux qui avaient plus de chance, bon, elles allaient dans les bureaux, mais il n'y en avait pas. Il fallait quand même déjà plus d'instructions, il fallait plus haut que le certificat d'études. Tout le monde commençait comme ça dans l'usine.
Ah ouais.
Il y en a qui finissaient même pas leur année scolaire. On m'a mis tout au début à l'étiquetage des piles, c'était beaucoup moins dur. Il fallait suivre le rythme d'une machine, mais s'il y avait un problème, on pouvait arrêter la machine. Ouais. Alors que les autres sur la chaîne ne pouvaient pas arrêter la chaîne. Les directeurs du personnel jouaient les petits papas, ils nous protégeaient... Ils nous promettaient des tas de choses quand on avait besoin. Rien n'arrivait, bien sûr, mais c'était très paternaliste, c'était très... Un franc 32 de l'heure, c'était pas beaucoup. Nous, on n'avait pas le droit à nos enveloppes. Si les parents le demandaient, ils avaient l'enveloppe directement. On était mineurs. Il y a beaucoup de parents qui venaient toucher la paye des enfants. Ça se faisait encore en 68. Moi, j'avais le droit, ma mère me laissait toucher ma paye. Elle m'attendait un peu plus loin.
Vous aviez la dignité.
Au moins, je recevais ma paye et j'avais le droit de sortir avec.
Parce que souvent, c'était les ouvrières et les agricultrices, d'ailleurs, pareillement, qui tenaient le budget du ménage, des
absolument.
Enveloppes sous le matelas.
Absolument. Ouais. Et si l'on songe que c'est seulement à partir de 1907 que les femmes mariées ont eu le droit de percevoir directement leur salaire. Jusque-là, un peu comme pour les enfants dont on vient de parler, on remettait le salaire de la femme au mari.
Main-d'œuvre peu formée. Alors, vous faites le parallèle entre la publicité de Moulinex et les conditions de travail chez Moulinex.
Oui.
Moulinex, c'est ce qui libère la femme, Michel Perrault.
Ah, c'est ce qui libère la femme, oui.
Les presses purées, tout ça.
Absolument. Mais pour fabriquer les presses purées, les conditions étaient à peu près celles qu'on vient d'entendre sur Vonder. Hein. Il y a eu un très très beau livre de Franck Magloire qui s'appelle Ouvrière et qui est le récit de la vie de sa mère, une espèce de et cette femme travaille chez Moulinex dans une grande usine de Moulinex qui est à côté de Caen. Hein. Et on retrouve tout à fait ce que disait cette ouvrière de chez Vonder. À propos de Vonder, le film est magnifique.
Reprise, Hervé Leroux.
Ah oui, oui, absolument. On peut le voir très bien sur Internet, ça dure 10 minutes, et on voit cette femme, Jocelyne, elle s'appelait Jocelyne, qui est belle comme c'est pas possible, et qui est vraiment furieuse de rentrer. Et on voit les ouvriers, gentils d'ailleurs, qui l'entourent, syndicalistes ou camarades qui veulent la persuader, qui la prennent un peu dans leurs bras comme ça, pour lui dire qu'il faut qu'elle se calme et qu'il faut qu'elle rentre.
Sauf qu'on ne l'a pas retrouvée.
Sauf qu'on ne l'a jamais retrouvée, absolument.
Vous avez fait d'ailleurs tout un livre sur une meneuse de grève qui a disparu comme ça.
Lucie Beau.
Corps et bien. Oui, oui. Vous distinguez des grands courants structurants qui s'éteignent très lentement dans le travail des femmes. Alors, le courant structurant de la domesticité, oui. Qu'on va retrouver au fond chez les femmes de ménage, d'une certaine manière.
Absolument, absolument. La domesticité, le soin qui est devenu maintenant le soin aux personnes, etc., etc., c'est ce qu'on considère comme un métier féminin. Quelque chose qui n'est pas très qualifié, où il n'y a pas d'outils. Hein, où on travaille à main nue, ben ça c'est très important, et où on s'occupe du corps en définitive, place des femmes, rôle des femmes.
Et puis on s'occupe aussi des intérieurs, et que ce ne sont plus les intérieurs bourgeois ou petits bourgeois, ce sont les bureaux. Un extrait d'un documentaire que vous connaissez bien, Jacques Crière, pour les femmes aussi, d'Eliane Victor, sur les femmes de ménage. Vous vous souvenez de ce documentaire ?
Ah, très bien, très bien. Eliane Victor était quelqu'un de formidable et sa série « Les femmes aussi » a été dans les années 70, par là.
Ouais. On est avant même les années 70,
même avant.
Là on est en 67.
C'est ouais. Ça, oui, un peu avant, a été quelque chose de bouleversant, de très important.
C'est à moi de parler de Jacques Crière, alors, maintenant.
Voilà.
Parce qu'il a quand même des mérites.
Oui,
parce
absolument.
Qu'il tournait avec une caméra très sensible et il arrivait à faire parler les femmes de ménage sans éclairage additionnel, voilà.
Oui.
Et c'est une femme souvent âgée, d'ailleurs, qui parle. Vous noterez que le salaire de cette femme de ménage est quand même deux fois supérieur au salaire qu'accordait M. Courtecuisse chez Vonder, et il s'agit dans les deux cas de femmes de Saint-Ouen.
Oui.
Ce spectacle étrange, entrevu par la portière d'un train qui vient de traverser la nuit et rentre dans Paris. Le 5 à 7 du matin, après les fêtards, avant les travailleurs, on nettoyait la ville de fond en comble. C'était des femmes, beaucoup de femmes. J'ai voulu en savoir davantage.
Vous avez déjà fait des ménages, parce que ce serait les ménages le matin.
Oh oui, on sait faire, hein, tous les deux. Puisque...
Oui, vous savez faire les ménages dans
oui.
Les bureaux.
Dans les bureaux, oui.
Oui. Vous pourriez aller à la porte d'Auteuil, c'est assez loin aussi, c'est ça.
Oui.
Il faut y être pour 6 heures. Il faut prendre le premier métro.
Oui.
Je ne sais pas si vous pourriez y être, parce qu'il y a un changement. Vous n'êtes pas loin de rue Lantier, là.
On est oui, la avenue Saint-Ouen, et nous avons la porte du... On a la bouche du métro, là.
Oui.
Comment, oui, on ira
là,
s'il faut.
Oui.
Oui, parce qu'on a besoin de travailler.
Oui, parce que naturellement, j'ai d'autres chantiers.
Là, on a combien d'heures, là, on a tout de suite.
Là, vous avez 3 heures.
3 heures,
6 heures à 9 heures. C'est 3 francs de l'heure, hein.
Oui.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
On aura peut-être reconnu Barbara. Alors, dans les années 60-70, je répète celle qui nous concerne aujourd'hui, 20% des femmes actives sont employées dans le tertiaire. Qu'est-ce à dire ?
C'est-à-dire, le tertiaire c'est large, ça peut être aussi bien les soins domestiques dont on vient de parler que le travail de bureau. Hein, sténo, dactylo, tout ce qu'on peut imaginer. Hein, voilà. Et je pensais même, vous voyez, qu'il y en avait encore plus, mais c'est surtout après 70 que le travail tertiaire va devenir dominant.
Il y a beaucoup de transformations après 70, absolument, on va y venir. Énorme. Mais moi, j'aimerais que vous me parliez de la petite dactylo convenable. Vous savez, celle Pigier, la formait. Ah, oui. Il y avait une publicité formidable. Vous ne pouvez plus doter vos filles. Formez-les chez Pigier.
Mettez-les à l'école Pigier, absolument, absolument. C'était considéré pour les familles petites bourgeoises qui commençaient à manquer d'argent, hein, il y a eu une véritable crise de ce point de vue, admettaient que leurs filles travaillent, mais pas à l'usine. Hein. Le bureau, c'est convenable. C'est propre. On a quelquefois un comptoir qui vous sépare des autres, par exemple dans les postes. Donc, les familles, oui, étaient pour ce travail-là. Donc, mettez-les à l'école Pigier, effectivement. Et d'autre part, on disait, les femmes qui savent très bien faire du piano seront très bien tapées à la machine à écrire. Parce que c'est les doigts. C'est l'habileté des doigts. C'est un métier pour lequel elles sont innées, au fond. Elles sont nées pour ça.
Oui, mais sauf que cette position intermédiaire, chercher peut se dégrader assez vite parce que les dactylos sont organisés en poules. Il n'y en a pas beaucoup qui deviennent secrétaires de direction.
Bien sûr.
Elles se retrouvent toutes sur une sorte de chaîne de travail, mécanographique ou dactylographique, non ?
Oui. Oui. Et là, les rythmes de travail deviennent très durs. Même dans les concours où on les recrute sur leur rapidité. Hein. Et il y a des photos, peut-être des films même, qui les montrent devant leur clavier, tapant le plus vite possible. Il faut faire le moins de fautes possible pour être évidemment embauché.
Bah, il y a même un film qui est sorti il y a peu, au début des années 2000, qui s'appelle Populaire, où on voit un agent d'assurance cornaquer sa dactylo pour en faire une championne tout terrain, parce qu'il y avait des concours, non seulement de recrutement, mais de vitesse, organisés sous des halles. On achève bien les chevaux, enfin on achève bien les dactylos.
Mesdemoiselles, s'il vous plaît, tout le monde en place. Attention, main au-dessus des claviers. Pendant la première manche, elles doivent taper au moins 360 caractères à la minute. C'est-à-dire toute la compétition, ça demande autant d'efforts que de courir à 5000 mètres.
Chaque phrase fausse, intervertie ou manquante, chaque mot écrit en trop, chaque interligne non respectée, c'est 100 caractères, comptabilisés en moins.
Il n'y a que 16 qualifiés, en 10 minutes seulement, puis 8, puis 4.
Et les deux dernières s'affrontent sur une finale de 5 minutes.
Et voici, le départ vient d'être donné. Vous avez l'habitude sans doute d'assister à un combat de boxe, un tournoi de tennis ou une partie de football. Et bien aujourd'hui, venez donc avec nous à la Foire de Paris, où se déroule le championnat de France de dactylographie. J'ai sous les yeux environ 70 à 80 jolies filles, et je vous assure que maintenant, on ne doute plus que la dactylographie soit un sport. En effet, à entendre les tac-tac continus, à voir les doigts agiles se déplacer sur les claviers.
Vous, mademoiselle, là-bas, vous, tapez, tapez vite, encore plus vite, plus vite. Vous êtes charmante, et je suis certain que vous gagnerez.
Donc le film, je vous le recommande, Régis Roinsart, Populaire.
Oui. Épatant, c'était épatant, j'avais pas vu encore, mais il faut y aller. Ce qui est très intéressant dans ce que vous venez de passer là, c'est l'alliance entre la performance sportive et puis jolie fille, charmante. Il y a l'alliance des caresses aux filles en même temps de la performance qu'il faut faire.
Mais une fille, ça n'est pas avec un clavier sous les doigts, ça naît avec une aiguille entre les doigts.
Ça naît avec une aiguille entre les doigts, bien sûr, et pendant des lustres, ça a été, la couture a été à la fois l'occupation des femmes à la maison et leur métier. Hein. La confection naturellement dans les ateliers, à la maison, avec le travail à domicile qui a été une forme extrêmement dure d'exploitation du travail des femmes. Oui, c'était très très important. George Sand, qui voulait revaloriser le travail de la couture, disait « mais l'aiguille, c'est la bêche des femmes ». Voilà. Il faut qu'elles en soient fières et il faut le revaloriser.
L'atelier de couture, il y en avait partout.
Oui.
Les femmes, même des milieux populaires, se faisaient faire des robes par des ateliers de deux personnes, une personne ou un peu plus.
Mesdemoiselles, voici Marthe. Elle va venir travailler avec nous. Pour les demandes, si puisque vous vous connaissez, vous allez la mettre au courant.
Alors, du coup, les doublures, il y a une doublure pour chaque veste, tu vois?
Oui, je vois.
Et tu me fais ça à petit poids, hein?
Oui, madame.
C'est pas mal. Encore tout à fait féerique, mais c'est pas mal.
On ne recommandera jamais assez Marie-Claire,
Marguerite
le journal, hein, le livre, l'atelier de Marie-Claire de Marguerite Audoux. C'était une femme, Marguerite Audoux, qui, venue d'un milieu paysan de Sologne,
tout
longtemps a griffonné et se demandait si il ne fallait pas qu'elle brûle. Ce qu'elle écrivait.
Oui, tout à fait. Elle a eu enfin le courage de venir à Paris, presque toute seule. D'abord de travailler dans la couture et de continuer à écrire. Et elle a eu, si je ne me trompe, le prix Fémina. Un des premiers prix Fémina pour l'atelier de Marie-Claire.
Soutenu par Octave Mirbeau et quelques premiers lecteurs.
Tout à fait.
Octave Mirbeau disait, elle avait un sens inné de la phrase sans en connaître les lois.
Oui. Il y a un musée Marguerite Audoux à Aubigny-sur-Nère qui vaut tout à fait la peine d'être vu parce qu'au fond on connaît pas grand chose sur elle. Il y a des photos d'elle au travail, etc. C'est extrêmement intéressant et on la revoit dans son milieu solonio également.
Couture, haute couture, parce que on couture, peut progresser. Couture. Je voulais vous parler d'une femme politique un peu oubliée qui s'appelait Odette Launay. Elle avait eu son CAP de couture, et puis elle était devenue vendeuse chez Jacques M. Et je crois que c'était Jacques M. qui habillait la générale de Gaulle. Je ne sais pas si c'est là qu'elle a rencontré Monsieur Habib Deloncle, dont elle est devenue la suppléante. Et Monsieur Habib Deloncle a été nommé ministre en 1963, et elle s'est retrouvée à l'Assemblée nationale. Et c'est la rapporteure, enfin on disait le rapporteur, pardon, de la loi importante du 13 juillet 1965 qui laisse ébaubi ce commentateur de l'ORTF.
Chers téléspectateurs, l'homme qui vous parle, pendant qu'il en a encore le droit, était jusqu'à lundi soir un seigneur, un féodal, un potentat, bref un homme marié. Nous sommes un certain nombre de millions dans ce cas. Depuis mardi matin, notre règne est fini. Une nouvelle loi est entrée en application. C'est la loi qui réforme les régimes matrimoniaux, qui donne aux femmes un certain nombre de droits nouveaux. Madame Launay, vous avez été l'un des rapporteurs de cette loi. Est-ce que vous estimez qu'elle donne vraiment satisfaction, qu'elle marque un grand progrès?
J'estime que c'est un premier pas qui a été fait et qui est certainement, pour les femmes, un gros avancement par rapport à ce qu'elles avaient auparavant. La femme maintenant, vous le savez, pourra ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de son mari. Elle pourra travailler, même s'il n'est pas d'accord, si ce n'est pas évidemment être un obstacle dans son ménage. Je crois qu'elle pourra acquérir une profession et qu'elle en sera donc tout à fait libre.
J'ai regardé la photo de Madame Launay, triple collier de perles, la mise en plis parfaite. Évidemment, Monsieur Habib Deloncle est redevenu député au scrutin suivant en 67, mais elle a ensuite été chargée des relations publiques de la maison Jacques M. Alors cette loi.
Cette loi est très importante parce que elle réforme, comme on vient de le dire, les régimes matrimoniaux. Sous le régime de la communauté, c'était le mari qui était le chef de la communauté. Voilà, une femme apportait des biens, ça rentrait dans la communauté, c'est le mari qui gère. Là, ça change tout. Mari et femme sont égaux. La femme peut aussi décider du choix du domicile, de l'emploi de l'argent, comme on vient de le dire, compte en banque, parce qu'il faut bien qu'elle puisse gérer. Oui, c'est une loi très très importante. C'est une loi très importante. George Sand encore, elle disait l'infâme code civil. Pas l'infâme code civil, qui avait vraiment mis les femmes sous le régime patriarcal. Au fond, les femmes n'avaient un peu de liberté que si elles n'étaient pas mariées. Mais en 1900, il n'y avait guère que 9% des femmes qui n'étaient pas mariées, pour telle ou telle raison. Et par conséquent, la majorité des femmes étaient mariées et sous la coupe de l'homme. Donc cette loi est révolutionnaire, elle est très importante.
Alors vous êtes devenu spécialiste de la question des femmes après 68. Quand, quittant la Sorbonne, vous êtes allé dans une université nouvelle, l'université Paris 7, qui était un gynécée d'ailleurs.
Oh, pourquoi un gynécée? Pourquoi
bah, tout le monde s'y retrouvait qui voulait être pionnier dans l'histoire des femmes et dire qu'il y avait non seulement l'exploitation de classe, mais qu'il y avait aussi l'exploitation patriarcale.
De genre, oui, bien
le
sûr.
Le mot genre, on ne l'utilisait pas en
70. Pas encore beaucoup. Pas encore beaucoup. Non, non, absolument. Ce sont ces années-là. Je dirais même c'est 70 plutôt. C'est après 70. C'est-à-dire, avec le MLF, hein, le mouvement de libération des femmes, ne naît pas en 68, mais il naît de 68, parce que les femmes se considéraient comme maltraitées, au fond, en 68. Alors, leur réaction, ça a été le mouvement de libération des femmes, qui bien entendu a porté sur toutes sortes de choses, et notamment les problèmes du corps. Hein, c'est ça qui est très important. Mais en même temps, nous étions plusieurs à être à l'université. On se disait, mais on manifeste, on fait des tas de choses. Mais qu'est-ce qu'on raconte sur les femmes en histoire? Rien. Rien. Hein. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de se lancer dans des cours, dans des recherches, etc., etc., et que on a un peu lutté contre le silence de l'histoire sur les femmes.
Vous étiez un affluent du mouvement ou vous étiez dans le grand mouvement féministe?
Alors j'étais pas une femme de premier plan du tout. Hein. J'étais une militante de base, mais en tout cas dans le mouvement féministe, absolument.
Oui. Et le discours sur l'oppression patriarcale que portait le MLF, il a eu une influence sur l'histoire des femmes?
Ah oui, absolument. Déterminant. Je crois.
C'est-à-dire
que...
un autre chapitre que celui que vous ouvriez quand vous faisiez de l'histoire économique classique, marxiste.
Bien sûr.
À la Sorbonne.
Bien sûr. En résumé, si on résume comme ça, ça fait une véritable rupture au fond. Hein. Mais en réalité, cette rupture couvait. C'est pas le lieu d'en parler ici. Mais le mouvement de libération des femmes, oui, c'est un mouvement très important qui a des conséquences intellectuelles sur parce qu'il y a beaucoup d'universitaires qui sont dans ce mouvement et dont qui se disent mais les pratiques doivent changer. On doit changer nos pratiques. 68, c'est quand même ça aussi. Hein. C'est l'idée que on peut pas se contenter de discours comme ça en l'air, mais que ce qui est le plus important, c'est ce qu'on fait.
Merci à vous, Michel Perrault. Cette émission a été réalisée par Audrey Ripouille, à la technique Patrick Henry, la préparation Frédéric Martin, Capucine Pacot.